Donc ouais, alors le monde avant Internet, c'était passionnant parce que c'était bizarre parce que on faisait des trucs. Moi, je me souviens moi, je me souviens que j'ai écrit mon premier roman dans un garage à Marseille et j'avais pas de connexion Internet et du coup ben mon ordinateur, c'était un espèce de vieux Mac Power PC. Et donc du coup ben les jeux étaient hyper chers, on avait piraté des jeux avec mon frère et tout sur Amiga et tout, mais on avait déjà tout joué et puis j'étais plus dans ce trip-là déjà. Et donc du coup ben comme j'avais rien à faire, à l'époque il y avait des CD-ROM. Alors les CD-ROM c'est un peu Internet parce qu'ils avaient à l'intérieur il y a des menus où on pouvait rentrer dans les trucs et tout, c'était super intéressant, il y a plein de photos, alors des fois on pouvait regarder dans les folders pour aller virer les photos. C'était un peu notre Internet à nous. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas se connecter, étant donné qu'on ne pouvait pas se mettre directement en relation avec le monde et avec le flux d'informations qui se passait, forcément on était obligé de s'inventer notre propre flux d'informations. Et du coup, ça, moi, en posant des choses sur la page et tout, je me suis rendu compte que je créais comme ça un monde et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. J'ai véritablement écrit mon premier roman en créant un monde dans lequel je voulais être avec des informations et des liens et des sous-parties, des encadrés, des notes et des machins, compagnie. Je me suis fait mon petit internet. Alors à l'époque, bon, la conceptualisation d'internet, c'était, je vous parle de ça, c'était avant 92, hein. C'était au début, fin des années 80. Bon, j'avais pas mon Mac encore à l'époque. Je devais avoir un Mac classique, hein, de merde. C'est l'espèce de truc là. Et du coup, j'ai écrit mon premier roman en 6 mois, ce qui est un truc de fou. Moi, il me faut 2 ans pour écrire un roman maintenant, genre 3 quoi. Pourquoi? Parce que bah, forcément, je suis plus aussi concentré qu'avant. Je regarde des choses, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de mon œuvre? Alors, je vais mettre mon nom en mots-clés pour aller voir un petit peu, pour frotter mon ego. Donc forcément, après, on se met à lire des trucs, et puis on avance, et puis on recule, et puis voilà. Donc ça prend plus de temps. Moi, j'ai écrit en 6 mois mon premier roman parce que j'avais que ça à foutre. Et qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait que de créer mon propre monde. À cette époque-là, on écrivait encore des lettres. Ce qui est quand même un truc de fou. Moi, j'avais une copine à l'époque, j'avais une correspondance incroyable. J'ai toujours les lettres. Une espèce de volume énorme de trucs. À cette époque, on écoutait des CD, quoi. Qui a encore des CD quoi? Ah quand même! Attends, je suis impressionné. Putain, vous faites avoir, vous savez ça? Franchement, c'est un peu l'arnaque les CD quoi. Moi, je me souviens quand c'est arrivé, les CD c'était genre, attends, je vais racheter tous mes vinyles en CD ou double du prix. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais, donc à l'époque on avait des CD, on avait des CD-ROM, on avait des machins, on avait des objets partout, 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 partout. Et puis quand Internet est arrivé, je me souviens très très bien du jour où Internet est arrivé quoi. C'est un truc de fou quoi. Moi, la première chose que j'ai fait sur Internet, c'était consulter les banques de scripts de films qui n'avaient jamais été tournés. À l'époque, ça s'appelait Drew Scriptorama, je crois. C'était une espèce de site comme ça qui avait tous les scripts pirates. Et pour moi, c'était le Graal. Sauf qu'il fallait 10 ans pour afficher un seul script, quoi. Le truc, j'avais un modem comme ça. Je sais pas, 32 baud, je sais même pas. Et ça voulait pas s'afficher. Alors, je lisais les dialogues un par un. Ça prenait des heures. C'était super cool. Puis après, il y a le porn. C'était la même chose. C'était ligne à ligne. Qu'est-ce qui va se passer dans la ligne d'après? Oh mon Dieu, un téton! c'était passionnant. Ouais, il y a de plus en plus de monde. Non mais rentrez pas, moi je dis n'importe quoi là. Je suis en roue libre les amis quoi. Vous êtes sûr que vous voulez venir? Ok. Donc pour les retardataires, je suis en train de parler du monde avant Internet. Voilà, pour raconter un petit peu ce qui se passait quand on était encore en train d'écrire des lettres. Non, parce qu'écrire une lettre, c'est un truc de fou quand même, quoi. Je veux dire, se poser, réfléchir à ce qu'on écrit. Je crois pas que j'aurais pu écrire mon premier roman sans avoir écrit des lettres, en fait, quoi. Ça, c'est un truc de fou, parce que vraiment se poser avec un bout de papier, un stylo, et faire la connexion entre la main, la tête, le bras, le corps, tout, c'est très physique comme acte, quoi. Mais c'est ça qui m'a poussé, c'est ça qui m'a poussé à écrire. Et c'est probablement ma première rupture qui m'a poussé à écrire ma première lettre. J'écrivais à ma marraine aussi. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand Internet est arrivé, on s'est retrouvé absorbé par l'unité du monde. Alors ça, c'est très important parce que c'est maintenant que j'ai réfléchi, je réfléchis à ce que je vais vous dire, parce que j'ai pas envie de vous dire trop de conneries. Je pense que c'est de ça dont je vais parler. Je ne vais pas parler de demain sur Internet, même si on peut essayer d'envisager des cas de figure où Internet se crache. Moi, je viens d'écrire sur le sujet, donc je vais vous en parler un peu. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vraiment vous parler. Ce que je vais vous parler, c'est de l'unité du monde et de la fragmentation du monde. et de ce qui est en train de se passer au niveau d'Internet en termes de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous unit, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment nous prend tout entier et qui nous donne un rêve d'utopie, d'un monde globalisé, machin, etc. Ou est-ce que c'est au contraire une machination terrifiante de l'ennemi pour nous isoler encore plus? Ok. Donc quand Internet est arrivé, moi je me souviens que la première chose que j'ai ressentie, c'était que je pouvais voyager. J'étais allé voir un gars qui avait une machine et il pouvait écouter toutes les radios du monde entier et il me montrait, c'était à l'époque, c'était du real-time streaming, machin, il y avait encore du real player, enfin, c'était dégueulasse quoi. Mais par contre, ouais, je pouvais entendre un truc, une radio islandaise quoi. C'est incroyable, moi j'ai toujours rêvé de vivre en Islande. J'écoutais une radio islandaise, j'entendais de l'islandais pour la première fois, c'était un truc énorme pour moi quoi. Et ben du coup, ben naturellement, je suis rentré dans Internet, mais je crois que je suis rentré dans Internet avec quand même un pas en arrière en disant j'ai toujours besoin d'avoir sur moi, avec moi, le mot écrit. Je vous parle d'un point de vue d'un écrivain forcément, hein, donc je vais être un petit peu partial sur les choses, les mots. Mais pour moi, c'était vraiment la relation, elle était vraiment là. Elle était dans l'acte de dire, est-ce que cet ordinateur à qui j'ai confié mes pensées, à qui j'ai confié ma structure, à qui j'ai confié mes rêves, mes fantasmes, est-ce que ce truc-là que je vais mettre au monde, que je vais donner au monde, que je vais partager avec le monde, est-ce qu'il est plus important, moins important que ce que j'écris pour moi dans mes cahiers? Ça, c'était vraiment un acte fondamental. Et quand on a commencé avec MySpace, ou même les pages Yahoo, même les pages Yahoo Group, même les BBS avant ça, quoi. Je veux dire, moi, je faisais partie d'un collectif de hackers à l'époque. J'y comprenais rien. Je trouvais ça juste cool, parce que j'avais vu le film Hackers. Ah, je trouvais ça génial, parce que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et donc, forcément, ben, on a commencé à rentrer en contact comme ça avec d'autres gens qui avaient les mêmes préoccupations, avec des gens qui écrivaient, pour qui l'écriture était le souci principal. Internet était entièrement fait de mots, puisque les images prenaient tellement de temps à s'afficher que tout était mots. Ça, c'est super intéressant, parce que on avait un rapport à Internet qui était complètement littéraire, quoi. Alors, dans le bouquin que je viens d'écrire, qui s'appelle Toxoplasma, que j'ai pas avec moi du tout, d'ailleurs, je n'avais pas prévu de vous le vendre aujourd'hui, Internet a été killé par les gouvernements, etc., et a été remplacé par une espèce d'Internet fermé corporate, en fait, quoi. Où juste les corporations peuvent être en contact les unes avec les autres, peuvent défendre la base de données, machin, compagnie. Et on a des hackers qui sont venus se greffer là-dedans, qui ont créé une espèce de... le terme, c'est piggybacker, quoi, vraiment. Ils sont venus pirater ça. Et ça se fait entièrement à la ligne de commande. Alors, ça, c'est très important, parce qu'à l'époque, à la mythologie qu'on avait d'Internet, c'était Gibson. D'accord ? Alors, pour remettre ceux qui ne connaissent peut-être pas Gibson, ça m'étonnerait quand même, sinon vous ne seriez pas là. Gibson a formalisé, on va dire, la matrice telle que le cinéma nous l'a vendue, telle que la culture populaire nous l'a vendue. Mais ce que Gibson a fait, et quand on lit Gibson, on comprend très bien ça, c'est absolument pas d'écrire un espèce d'univers virtuel à la mort moelle-neuve comme Second Life peut nous en vendre, ou comme régulièrement la presse ou les médias veulent essayer de nous faire croire que c'est en train d'exister. Non, ce qu'il nous a vendu, c'était un monde littéraire qui était interprété visuellement par des machines. Et chaque machine avait son propre programme, chaque machine avait sa manière d'interpréter le mot et l'information, et si on était sur deux machines différentes et qu'on consultait la même base de données, on n'allait pas voir la même chose. Ça, c'est quelque chose de fondamental, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, quoi. C'est qu'à la base, c'est du mot, et tout se fait à la ligne de commande. Donc pour ceux qui connaissent un peu Unix, et pour ceux qui travaillent un peu là-dedans, c'est que du texte. Et c'est notre cerveau, et c'est notre capacité à voir des vecteurs, c'est notre capacité à voir des formes et des silhouettes se dessiner, qui crée cette intensité, en fait, quoi. Gibson avait tout compris, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait quand il a dit, quand il a écrit Neuromancien, il a dit, moi je voyais tous mes potes avec leurs espèces de machines, je comprenais rien, et il était à fond d'acide, et tout ce qu'il voyait, lui, c'était des trous noirs, des vortex, des trucs comme ça, alors qu'il n'y avait que des mots et des bits et des numéros, quoi. Bon. Donc, nous, on a connu ce moment-là. Moi, quand je dis nous, j'ai connu ce moment-là, quoi. Moi, j'ai connu ce moment de mots absolus sur Internet. Bon. Après, oui, bien sûr, je vous en prie. Vous voulez participer ou... Ah ben là, il n'y a plus rien. Voilà, c'est des salles complètes. C'est assez étonnant. Et donc, Moi, j'ai toujours eu cette vision-là d'Internet. On a commencé à parler un peu plus de nous sur Internet. C'était moins le collectif, c'était moins les hackers, c'était moins les communautés. C'est devenu plus des individus. Voilà, quand on a découvert MySpace, c'était le graal absolu pour notre petit ego d'écrivain, quoi. C'était genre, oh mon Dieu, je peux être une rockstar. C'est trop bien. On mettait nos photos, on faisait nos petites pages. Alors bon, c'était comme nos pages Geocities. Moi, j'ai eu une page Geocities juste avant ma page MySpace. Les deux étaient aussi laides, hein. Globalement, ça ressemblait à une page Facebook encore plus dégueulasse. C'est vraiment le papier chiotte d'Internet, quoi. Cette espèce de truc où il y a des pubs partout, il y a des machins sur lesquels cliquer, c'est dégueulasse, une machin de clic. Bon, bref. Et on a pris le réseau social, en fait, on l'a accueilli avec bonheur absolu, tout en sachant que, in fine, ça nous détruirait. Parce que je pense que ça nous détruit. Alors, je veux pas faire le réac, le machin, tout ça. Oh, pas de photo, please. C'est possible, pas de photo ? Super, cool, merci. Je veux pas faire le réac ou machin comme ça, quoi. Mais Internet a changé à ce moment-là, quoi. On est passé réellement d'un monde qu'on était en train de construire ensemble à un monde qu'on défaisait ensemble. C'était passionnant à observer. D'ailleurs, moi, j'ai perdu mes meilleurs potes au tout début des réseaux sociaux, quoi. Parce qu'ils étaient jaloux, moi je pouvais être jaloux, parce qu'on avait les mêmes amis. Et qu'on se disait, oh, mon Dieu, ça va être bizarre, ils vont croire qu'on est de bisbis parce qu'on a les mêmes amis. Alors toi, tu prends tel genre d'amis, moi je prends tel genre d'amis. Moi, c'était horrible, 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 absolument horrible, quoi. Et c'est devenu de pire en pire. Mais on n'a pas pu s'empêcher de continuer parce que c'était tellement un fixe pour notre ego, incroyable. Après, c'est aussi une source de connaissance. C'est aussi une source d'apprentissage. Je reviens à Gibson. Gibson, il dit, je vois pas pourquoi je continuerai à expliquer des choses dans mes livres en détail alors que les gens, ils ont Google à côté. S'ils comprennent pas un mot, s'ils comprennent pas un mythe, s'ils comprennent pas un machin, ils ont qu'à aller sur Google. Moi, je travaille avec Google. Il n'y a pas de raison qu'eux ne fassent pas le chemin aussi. Il a raison. Il a raison. Ça permet d'aller vachement plus près de l'écriture. Ça permet d'aller vachement plus près de la spécificité de l'information. Ça permet aussi de garder une espèce d'occlusion comme ça, un petit peu sur les informations qui forment de la poésie, quoi. Parce que c'est très difficile de faire de la poésie avec un média qui est aussi détaillé et aussi chaleureux qu'Internet, au sens où McLuhan l'entendait, c'est-à-dire qui donne tellement d'informations à tous les niveaux que la place de l'humain dedans, elle est réduite. C'est-à-dire qu'un média froid, ça va être quelque chose qui va donner tellement peu d'informations que l'humain, il va être dedans, il va être obligé d'imaginer, il va être obligé d'alimenter ça avec lui-même, avec sa pensée, avec sa parole. Mais il y a chaud, hein. C'est tout dans la gueule, quoi. Bon. Donc il y avait l'information. Donc c'est pour ça qu'on était un peu ambivalent sur cette idée de ouais, on défait, on sait qu'on est en train de tout détruire, mais en même temps, c'est tellement bon pour notre ego, c'est tellement bon, on va peut-être vendre 2 livres de plus. Et en même temps, c'est vrai que c'était cette source incroyable d'information, quoi. Je veux dire, c'est incroyable ce qui s'est passé après le 11 septembre. Après le 11 septembre, les gens ont commencé à rafraîchir les pages d'information toutes les 5 minutes. Pour voir s'il n'y avait pas un nouvel avion qui s'était planté quelque part, quoi. Non, mais c'est vrai. Et les gens continuent à faire ça. Moi, même moi, je le fais régulièrement. Je veux dire, quand je suis au taf, des fois que je me merde, eh ben, je regarde, mais puis je rafraîchis les pages en attendant le mec qui a écrasé 10 000 personnes. Espèce de voyeurisme comme ça, c'est de la compulsion. C'est devenu de la compulsion. Donc on est à un moment maintenant, bon, j'ai fait vite fait le tour, mais on est à un moment donné où je suis profondément, mais écœuré et dégoûté par Internet. Pour moi, cet endroit est une poubelle en flammes. Je l'ai dit, et pourtant j'y suis. J'ai un compte Twitter, j'ai une page Facebook, j'ai une page perso Facebook, j'ai mon propre site web, j'ai une page Wikipédia que je fais pas. Des fois ça m'arrive de la bidouiller et je me fais spotter et les mecs rasent tout. C'est horrible. J'ai fait ça la semaine dernière et en fait je me suis retourné ce matin pour voir un petit peu. Et en fait il y avait un mec qui avait dit vandalisation par tel IP venu du Canada, je rétablis tout. Ouais. Ok, bon, je suis vandale de ma propre vie, c'est génial. Non mais c'est incroyable ce truc de Wikipédia, je veux dire un jour elle a surgi cette page, quelqu'un l'a créée pour moi, super, mais je me suis dit pourquoi est-ce que moi j'aurais pas le droit de participer à ma propre légende, quoi. C'est vrai, quoi, j'interdis, j'ai pas le droit, alors pas le droit, j'ai le droit de laisser les gens dire des bêtises sur moi, mais moi j'ai pas le droit de dire des bêtises sur moi, c'est très désagréable. Donc on en est là, donc avant d'arriver sur demain sur Internet, je sais pas, je suis à un quart d'heure déjà, putain, encore 3 quarts d'heure, c'est 1 heure. Voilà. Je vais vous laisser parler à un moment donné. Hein. où on en est aujourd'hui, pour moi, je suis à deux doigts de faire une déconnexion totale. Et c'est peut-être pour ça que je vais amorcer le demain sans Internet, en tout cas dans ma vie. Déjà, j'ai plus de portable. J'ai plus de téléphone portable, plus de smartphone. J'ai un vieux Nokia pourri pour pouvoir avoir les SMS de ma mère. Et je me rends compte d'un truc terrible. C'est que est venue d'Internet non seulement une fragmentation du monde, je ne suis pas contre la fragmentation du monde, je vais en reparler, mais est venue surtout une anxiété totale vis-à-vis de ça. On est dans une dystopie totale. On est dans une dystopie totale parce que ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, on va dire à 95% du temps, c'est notre vie parfaite, c'est notre vie rêvée. Je ne vais pas prendre une photo de mes doigts de pied dégueulasses un matin en me levant du lit, en disant hey, « Eh, regardez, j'ai des croûtes entre les doigts !» quoi. Jamais je fais ça. Peut-être si je suis vraiment punk un jour et que j'ai envie de me dire « Wouh, super !» Mais je ne le ferai pas. Non, par contre, ce que je vais montrer, c'est « Regarde mon petit café, super mocha, machin, avec le petit cœur dedans, trop bien, dans le petit truc avec mon MacBook, trop bien, super !» Ou alors, regardez, oh, je suis honoré de faire partie de cette anthologie avec machin, 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 machin. Ce qu'on appelle le humble bragging. Ça, c'est énorme. Ça, c'est I am humbled to be a genius. C'est littéralement ça qui se passe en ce moment sur Twitter. C'est horrible, quoi. Tout ça pour dire, non, mais assume, dis que t'as de l'ego, dis que tu. Vas-y à fond, quoi. Non, ils y vont pas. Et donc, ça, ça crée quoi? Ça crée que quand on est un peu mal à l'aise dans sa vie, qu'on a des problèmes, qu'on a des problèmes avec ses parents, qu'on a des problèmes au taf, qu'on a des problèmes avec... on vend pas de livres, ou qu'on a des problèmes... qu'importe. Et, ben, et qu'on voit notre fil tous les jours, à part les trucs sur Trump, tout ce qu'on voit, c'est ce qui est bien dans la vie des autres. Non mais c'est hallucinant, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'une vie, c'est pas bien. On sait très bien qu'on a tous des vies de merde. On sait très bien que c'est chaud de vivre, que c'est chaud de se lever le matin, que c'est super difficile de fonctionner dans cette société. Enfin, je veux dire, vous imaginez les efforts qu'il faut faire pour maintenir en vie un corps tous les jours, dans un corps physique, un corps social et un corps culturel, et un corps familial. C'est hallucinant l'énergie qu'on déploie tous les jours rien que pour rester en vie. Ok ? C'est chaud, c'est super dur, c'est pas parfait. Mais ces moments-là de doute, ces moments-là de fragilité, ils ne sont pas partagés sur Internet, très rarement. Et quand ils sont partagés, les gens ne veulent pas voir et ils sont mal à l'aise, quoi. Ils disent « Non mais attends, mais moi j'ai eu affaire à un cas de suicide il n'y a pas longtemps sur Twitter, là. Une petite trans qui est en train de se suicider, littéralement sous nos yeux, quoi. On ne la connaissait pas, on avait juste son fil. Alors les gens qui la connaissent, ils se prenaient contact les uns avec les autres, en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? On appelle, on envoie des messages à Twitter, on appelle, on ne sait pas qui est, on ne sait pas où elle habite, on ne sait pas ce qu'on fait. » Moi, j'ai pas de nouvelles de cette nana. Je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle s'est tirée une balle, j'en sais rien. Tout ce que j'ai pu faire, c'est assister à sa mort potentielle quantique. Non, mais c'est horrible. Enfin, je veux dire, merde, quoi. C'est pas un projet de civilisation, ça. Ok ? Alors, je vous passe les fake news, les machins, les trucs comme ça, qui sont montés en épingle et compagnie, mais c'est vrai que c'est, aujourd'hui, c'est très très dur d'avoir une source claire sur quelque chose, quoi. Même si on a des réflexes qu'on commençait à être intégré et qu'on regarde quand on voit une news et qu'on apprend que Gérard Depardieu est mort d'un cancer du sida, on se dit oula, c'est quoi la source? Ouh, c'est ok. Donc non, parce que c'est vrai que ils ont fait ça, c'est hallucinant, un nombre de trucs. Et puis donc il y a ça. Donc ça, c'est le premier truc. Et cette anxiété vis-à-vis de l'incertitude de savoir qu'en fait notre vie de merde, elle n'intéresse personne et que tout le monde a une vie géniale, fantastique, bah ça crée, notamment dans les jeunes générations, un sentiment de dépression totale. C'est hyper violent, quoi. J'ai été confronté à ça directement. Je travaille dans le jeu vidéo, donc je travaille avec énormément d'ados, je travaille avec énormément de jeunes, et je les vois, et je vois à quel point c'est dur pour eux de réconcilier le fait de fonctionner dans le réel avec l'image qu'ils ont du réel à travers ce filtre sur Internet, quoi. Je ne pose pas réel et virtuel, hein. Tout ça, c'est des débats d'arrière-garde. Parce qu'en plus, les jeunes, ils savent très bien faire, ils savent beaucoup mieux faire la différence entre le réel et virtuel que les adultes. C'est les adultes qui sont paumés. Les gamins, ils ont l'habitude de naviguer entre les deux sans problème, quoi. Et moi, je suis très inquiète de ce qui se passe là. Je travaille avec des enfants, je donne des cours à des enfants, je donne des cours à des enfants de difficultés et compagnie, et je vois à quel point c'est violent. Et ça, c'est un point qui est intéressant. La plupart de ces enfants avec qui je travaille en décrochage scolaire, en difficulté scolaire, ils ont très peu accès à Internet. Souvent parce qu'ils sont issus de minorités migrantes, parfois parce qu'ils sont punis parce qu'ils sont méchants, parce que machin, etc. Mais ils n'ont pas ce rapport-là. Et donc, du coup, ils ont un rapport qui est vachement plus réel et vachement plus puissant à l'autre, quoi. Alors, je dis pas que c'est mieux, voilà, je dis juste que c'est intéressant de voir que cette anxiété, elle vient de la normativité, en fait. Elle vient du fait que pour être dans la société, pour être bien, il faut être normé dans l'anxiété, quoi. Il faut être normé dans le fait de ne pas pouvoir réunir tous ces fragments et de ne pas pouvoir comprendre cette mosaïque d'identité qu'on a, quoi. Parce qu'on essaie de nous convaincre qu'il faut avoir une identité, qu'il faut être... Mais c'est pas vrai. Bon, je dévie un peu, mais j'amorce un petit peu ce que je vais dire par la suite. Je vois qu'il y a des gens qui partent, je pense que... Ah oui, vous arrivez, c'est cool. Ça va, mon ratio de gens qui s'en vont et qui en ont marre n'est pas trop, trop épais encore, quoi. C'est assez cool. Ça va, c'est structuré, vous comprenez, vous suivez, je divague pas trop, c'est bon. Vous pouvez partir si vous voulez. Je ne vous retiendrai pas. Qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va s'arrêter? Déjà, je pense que ça ne s'arrêtera pas. Parce que c'est un outil bien trop puissant de contrôle. Alors, on va dire, contrôle, encore la dystopie, la totalitarisme, etc. Mais absolument pas. Absolument pas. C'est un contrôle qu'on donne de nous-mêmes. Moi, je vois mon père, il met n'importe quoi. Il met n'importe quoi sur Internet, il va n'importe où, il n'a pas de VPN, il n'a pas de feed, il n'a pas de cookie machin, il n'a rien. Et je dis, papa, tu te rends compte que potentiellement, tout ça pourrait être retenu contre toi. Et il me dit, ah, je fais rien de mal. Tout ce que je mets, c'est gentil, c'est cool. Moi, enfin, jusqu'au jour où ce que tu mets, c'est pénalement, ça va être puni pénalement, quoi. Dans 10 ans, 15 ans, regarde, il y a 15 ans, tu as mis un post sur Bjorn Borg, comme quoi c'était un très 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 mauvais joueur de raquette. Il se trouve que Bjorn Borg aujourd'hui a été canonisé saint de l'Église catholique. Bam, bam, en prison. Bon, il n'a pas compris l'analogie. Mais c'est un peu ça. Et je lui dis aussi, mais tu sais, ne serait-ce que d'être avec ton téléphone à un coin de rue où il y a eu un meurtre, te pose en suspect direct de ce meurtre. Parce que tu étais à ce point, t'as eu le malheur d'être à ce coin de rue à ce moment-là, quoi. Même si t'as rien fait. Donc, effectivement, il y a ce truc de contrôle, il y a mais c'est, les gens, ils veulent ça. Ils veulent, quand je dis les gens, j'aime pas dire ce mot-là, en tout cas mon père. Mon père, il veut ça. Il veut la sécurité, il veut la... Il veut se sentir faire partie de quelque chose qui est plus grand que lui et qui prend soin de lui. Bon. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer avec Internet en ce moment. On a cette espèce de gigantesque bulle là, qui nous entoure, qui nous fait croire qu'on a, en jeu vidéo, on appelle ça de l'agency, une capacité d'influer sur le monde. Alors qu'en fait, on ne l'a pas. Et c'est là où je vais commencer à rentrer dans les détails un petit peu plus sordide sur ce que j'ai envie de dire, et après peut-être aborder réellement la question du demain sans Internet potentiel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous vend la fragmentation comme étant un malheur. On nous vend la fragmentation comme étant quelque chose qui isole les gens, qui défait l'unité du monde. Mais qui nous dit ça? Les gens qui veulent nous faire respecter l'unité de la République? Les gens qui veulent nous faire respecter l'unité de Dieu, les gens qui veulent nous faire respecter l'unité du genre, les gens qui veulent nous faire respecter l'unité de la morale, ce sont des gens qui veulent nous faire respecter l'unité du mensonge. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va créer des espèces de structures un peu jolies comme ça, en disant « Venez, 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 regardez, c'est ça l'unité, quoi. » C'est pas ça l'unité. Et donc forcément, cette fragmentation-là leur fait peur. Ils se disent « Oh mon Dieu, ça y est, on va se retrouver avec des régions autonomes, on va se retrouver avec des langues différentes, on va se retrouver avec des communautés différentes. » Le communautarisme. Mais moi, plus j'y réfléchis, et puis, alors après, c'est dans la politique, ouais, tous ensemble. Oh, putain. Tous ensemble, quoi. Ensemble pour quoi? Vers quoi? On marche vers quoi? Vers le mur? Mais on est tous ensemble à marcher, c'est cool. On sent ensemble, quoi. Et donc du coup, on s'est dit, waouh, on a accueilli Internet en disant, waouh, c'est cool parce qu'Internet, on n'a pas besoin d'avoir cette espèce de chapelle de mensonges autour de nous, en disant, tout le monde peut être un individu, tout le monde peut avoir son perk, son fétiche, son machin. Tout le monde est spécial, tout le monde est singulier, tout le monde est merveilleux, et on est tous en réseau. Ouais, sauf que. C'est pas tout à fait le cas. Parce que qui détient les moyens de production d'Internet? qui détient les moyens de fabriquer l'électricité qui permettent d'avoir ces moyens de production. À partir du moment où on commence à réfléchir comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir une lecture un peu, non pas politique, mais... si, politique. Fuck. De la chose, on se dit que finalement, ils sont en train de nous créer un système d'autorité en creux. Pas comme ça, mais comme ça. Où nous, on va porter des informations, on va donner des choses et on va être supporté par cette infrastructure. C'est la domination de l'infrastructure, quoi. C'est les grands chantiers physiques, mécaniques, et c'est les grands chantiers Internet, c'est les tubes, c'est les serveurs, c'est les sites des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus Internet. Moi, je connais des gens, ils commencent Internet par leur page de réseau social, quoi. Internet devient du PQ, quoi. Littéralement, excusez-moi, des fois, je suis un peu vulgaire. Littéralement, c'est ça. Je vais commencer et je vais filtrer mes informations par ça. Qu'est-ce que mes potes m'ont dit, quoi. Et à partir de là, moi, j'ai même vu des gens taper des sites, des www dans des trucs de recherche de Facebook, quoi. Voilà, c'était vraiment la fin du monde pour moi, quoi. C'est vrai, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Et donc, ils sont en train de nous créer ce système en creux, qui est un système totalement, complètement totalitaire, qui est dominé par des grandes sociétés capitalistes, machin, mais qui vont être, à terme, dominés par des gouvernements. Je veux dire, regardez ce qui se passe en Chine, quoi. C'est pas quelque chose qui va nous permettre de libérer la singularité de l'être. Et alors, par là, c'est très important ce que j'ai envie de dire, j'étais militant de l'individualisme pendant très longtemps, anarcho-individualiste à fond, etc. J'en suis bien revenu. Parce que je ne pense pas que les choses se posent en termes d'individu et de société. L'opposition entre l'individu et la société, c'est aussi un mensonge, c'est aussi une marionnette. On nous fait croire qu'il faut s'articuler binairement là-dessus, quoi. Non, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est comprendre ce que nous a enseigné Internet dans le genre de broadcast de notre personnalité et de jardinage de notre identité. Ouais, ça, c'est le jardinage de notre identité. Littéralement, nous sommes un jardin et on s'occupe de nous-mêmes et on se rafraîchit et on rafraîchit notre point de vue sur le monde et on rafraîchit notre point de vue sur les autres et on se dit peut-être que. C'est très très beau ça, c'est magnifique. C'est ça qui fait le monde. Le monde, il est divers, il n'est pas uniforme. Nous avons besoin de cette diversité, nous avons besoin de cette fragmentation. Elle est l'ordre véritable du monde. Le chaos est l'ordre véritable du monde. C'est l'ordre qui est une forme de fascisme de la réalité, comme ça, bam. Donc si nous avons besoin de ça, comment pouvons-nous continuer à fonctionner ensemble tout en sachant que nous sommes tous séparés les uns des autres. Et il est là l'enjeu du futur. L'enjeu du futur, il est dans l'activation des liens entre les gens. Et je ne parle pas des liens Facebook, je ne parle pas des liens des amis, machin, compagnie, je parle des vrais liens, c'est-à-dire des choses qui s'établissent de personne à personne, de regard à regard, tout le temps, en permanence, de profondeur, d'intensité et de vérité. Alors par vérité, pas dire la vie, il y a une vérité de l'être, de l'âme, machin, compagnie, c'est pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, doit s'exprimer quelque chose qui dépasse le conditionnement binaire et le mensonge qui a été tissé tout autour de nous. Alors, je n'ai pas envie de faire mon Philippe K. Dick et de vous dire qu'on vit dans un monde virtuel, machin, compagnie, pas du tout, mais c'est pas cognitif, c'est structurel, c'est intégré à la société. Donc cette activation des liens, elle est fondamentale pour nous. Et si on doit penser à un demain sur Internet, on ne faut pas penser à demain sur Internet en se disant ça va ressembler à ce qu'il y avait avant Internet. Parce que ce n'est pas possible. Parce que le monde, parce que la cybernétique nous a changé. Parce que nous avons changé notre processus d'adaptation. Nous avons notre processus d'analyse. Nous sommes influencés par les ordinateurs. Nous sommes influencés par les algorithmes. Pas en termes de j'ai besoin d'un algorithme pour savoir où c'est que je vais, où est mon hôtel. Parenthèse. Ça, je ne supporte plus. Honnêtement, je veux dire, encore une fois, mon père, que quand même que j'adore, hein, par ailleurs, mais c'est un bon exemple. Mon père, la dernière fois, on était en bagnole à Montréal, et puis il avait son GPS là, bip, bip, tournait à droite, machin. Et il disait, il trouvait pas l'entrée de l'autoroute, quoi. Et je lui dis, papa, regarde, il y a un panneau là, 46 sud, quoi. Oui, non, mais attends, et il était sur son GPS à fond, quoi. Ça marche pas. Il loupe l'autre, papa, c'était là. Ouvre les yeux, quoi. Je veux dire, juste ouvre les yeux, c'est devant toi, quoi. Ça, c'est très, très grave. Je pense que même si on a un fantasme de langue augmentée et compagnie, Ah, mon téléphone portable, c'est un bout de moi-même, c'est un bout de ma tête, c'est un bout de mon vagin, whatever. Quand même, on est en train d'être fondamentalement poussé vers un assistanat de l'analyse critique en permanence. Ne serait-ce qu'aller demander son chemin à quelqu'un dans la rue, c'est un acte énorme maintenant, quoi. C'est un truc de fou d'aller aborder un étranger, de dire « est-ce que vous savez où est machin ?» Où ça se trouve, quoi. Il y a un contact physique, il y a des yeux, il y a un sourire, il y a des remerciements. C'est un truc de fou, quoi. Non, non, en général... Ah ouais, c'est arrivé ? Oh putain, merde. Ah ouais, j'en ai une pas mal, comme ça. J'étais beaucoup plus jeune. J'étais à Florence, et je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. J'avais une carte, j'arrivais pas à comprendre où était un lieu, un noir et blanc, et je suis allé voir un flic, et je lui dis « excusez-moi, montrez-moi où c'est ça ». Elle me dit « non, non, vous ne pourrez jamais trouver ça sur votre carte ». Et là, il me sort la même carte en couleur. Elle me montre où c'est en couleur, parce que le truc avait un carré de couleur. Donc, ouais, je peux comprendre. OK. Donc, cette activation des liens humains, voilà, c'est ça qu'on doit garder d'Internet. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de gens qui commencent à travailler sur une espèce d'Internet analogique en ce moment. C'est-à-dire de dire « ouais, alors regardez, moi, on va faire Tinder avec des bouts de carton, quoi ». Je vais faire mon petit site, alors je vais me mettre sur ma petite table là, et puis je vais me faire une petite cabane avec mon nom, et puis tous les livres que j'ai écrits à côté, et puis vous pouvez venir, et puis les commander, les prendre. Et c'est cette espèce de monde, une espèce de foire en carton que pourrait représenter la projection d'Internet dans le monde réel si Internet venait à disparaître. Mais ça, c'est juste une figure absurde et poétique, on va dire. La vérité, c'est que si demain on n'avait plus de réseau, déjà, le réseau ne s'arrêterait pas. Il appartiendrait forcément à des puissances qui sont capables d'en maîtriser les moyens de production. Donc ça appartiendrait à des gouvernements, ça appartiendrait à des corporations qui probablement auraient intérêt à partager certaines bases de données ou à protéger des choses parce que ben, leur histoire de cloud là et leur machin et leur serveur énorme, enfin, c'est hyper important pour le process d'information. Ils compilent tellement de choses en ce moment, tellement de trucs en permanence, que bon, forcément, ils vont quand même avoir besoin d'avoir un échange entre des machines, quoi. Ben, s'il y a échange entre machines, il y a réseau, quoi. Donc après, est-ce que le réseau il est fermé comme au tout début d'Internet, quand ARPANET est arrivé, qui était un réseau militaire, universitaire, puis militaire, comme ça, en boucle fermée, puis qui s'est ouvert, puisque toutes les nodes après se sont ouvertes et se sont raccrochées. Donc déjà, si Internet disparaît, Internet, on va nous le voler. Ça, je pense que c'est difficile de nier qu'à partir du moment où on ne dispose pas de l'électricité et qu'on ne dispose pas des infrastructures serveurs et des câbles, ben, on sera niqué comme tout le tour, quoi. C'est comme ça que ça va se passer. Ils vont tout nous prendre, quoi. Ils vont se faire leur truc à eux, et voilà. Et peut-être qu'on aura des passe-droits pour aller voir 2-3 trucs éventuellement, pour payer nos impôts, EDF, quoi. Après, en Chine, c'est différent. En Chine, ils ont des sous-sites contrôlés où les gens peuvent avoir une certaine forme de liberté à l'intérieur même d'une information triée, machin. Donc Internet, on nous le volera. Les pirates, et c'est ça la beauté des hackers, c'est qu'ils seront toujours là pour foutre la merde. Et c'est ça que moi je trouve ça magnifique, parce que il y aura toujours une faille dans leur système. Il y aura toujours quelque chose qui foirera, et il y aura toujours des gens, des petits rats pour y aller, quoi. Mais ça sera criminalisé comme ça l'est aujourd'hui, et ça sera encore plus criminalisé. Imaginons un instant que nous, pauvres peuples, n'ayons plus Internet pour pouvoir broadcaster notre personnalité, pour pouvoir rester en contact avec notre famille de l'autre côté de l'Atlantique, pour pouvoir partager nos goûts en gâteau au chocolat, ou pour pouvoir rigoler de la girafe qui est en train de se prendre un mur. Imaginons un instant qu'on n'a plus accès à ça. Qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant ? Je veux dire... Encore, les gens qui sont nés avant Internet, on va peut-être pouvoir revenir à une forme de, je sais pas, de langueur analogique comme ça, une espèce de tristesse du monde fini, quoi. Bon. Mais les digital natives, ceux qui vivent sur Internet, parce que c'est un lieu, cet endroit, il existe, quoi. C'est pas une abstraction, Internet, c'est pas un truc comme ça, c'est sur Internet. Non, non, il y a des gens qui se tuent sur Internet parce qu'on leur a pas répondu à un message privé, ou parce qu'on leur a posté un truc horrible sur leur mur, ou parce qu'ils ont vu quelque chose qui les avait déprimés. Il y a des gens qui meurent sur Internet, des gens qui vivent sur Internet, ok ? C'est pas une abstraction, quoi. C'est comme les rêves, quoi. Ce qui se passe dans nos rêves, ça nous influence tout le temps. Moi, j'ai vu ma grand-mère il y a 2 jours, elle est avec moi depuis 2 jours, quoi. Pardon ? Ah putain, moi je me suis fait bouffer par des requins, mais combien de fois dans les rêves, quoi? Ah, moi je me suis fait avaler, je me suis vu avaler par un requin littéralement qui a fermé sa mâchoire sur moi là, quoi. J'ai vu toutes mes tripes sortir, hein. Alors ça c'est une super question. Ça c'est vraiment une vraie question. Ça c'est une vraie question de fond. C'est le droit à la mort sur le net. Bah oui, le droit à la... Qu'est-ce que c'est que mourir sur Internet en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est en termes de mourir? Moi je me tue parce que j'ai broadcasté ma mort sur Internet, ou est-ce que je meurs? Ma présence sur Internet meurt. Hein? Voilà, alors donc ça c'est le droit à l'oubli. Ça c'est le droit à l'oubli, c'est le droit à la mort, c'est le droit au suicide. Mais finalement, ce qui est très intéressant, c'est que ça pose la même question philosophique que la vie, c'est-à-dire le suicide, c'est l'ultime liberté de l'homme que d'avoir le droit de se suicider. Moi, je veux dire, si demain j'ai un cancer du sida et que c'est la merde, direct, quoi. Je pense même pas, quoi. Bon, je devrais avoir le droit de faire ça. C'est pas le curé qui va venir me dire, mais t'es précieux, tu sais, Dieu, il a une place pour toi. Là. C'est bon. Allez. J'ai rien contre la croyance et les croyants, je trouve ça très beau, il n'y a pas de problème. C'est pas mon trip. Ouais, grave, bien sûr, absolument, ouais, c'est romantique, c'est tragique. C'est... Ouais, c'est une illusion, mais... Oui, oui, c'est absolument. Et absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est super intéressant cette idée de se dire qu'en se débarrassant d'une illusion, quelque part on évolue aussi, quoi. Parce que souvent, enfin, je veux dire, dans la construction de notre personnalité, on a ces illusions sur nous-mêmes. On croit qu'on est ci, on croit qu'on est ça, on croit qu'on est comme ci, comme ça. Et finalement, ces renoncements nécessaires à la vie, ces renoncements, ces espèces de peaux psychiques qu'on pèle comme ça au fur et à mesure, c'est des illusions qu'on apprend à laisser partir aussi, quoi. Et alors, sur Internet, c'est très intéressant, et dans les mondes virtuels aussi, c'est que ces illusions peuvent devenir matière d'une certaine manière, s'incarner d'une certaine manière. Moi, je l'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup travaillé sur Second Life, dans l'incarnation dans l'avatar. Bon, c'est pas terrible, Second Life, mais en tout cas, c'est ce qu'on a de plus proche, on va dire, d'une forme de plasticité de la psyché dans un monde virtuel, quoi. Excusez-moi, des fois, j'utilise des mots un peu violents, mais c'est pas tout le temps, quoi. Moi, je me suis déjà suicidé dans Second Life. J'ai mis en scène mon suicide avec un ami qui m'a filmé pendant que je sautais d'un immeuble et je me suis tué. Ce qui est complètement ridicule, parce qu'on peut voler, il n'y a pas de pesanteur. Et au moment où j'ai touché le sol, j'avais ma page ouverte sur mon compte là, et j'ai supprimé mon compte au même moment. Non, et non, et non. Moi, je l'ai fait parce qu'à cette époque-là, j'étais encore en doute sur mon genre, j'étais encore en doute sur ma personnalité, et j'avais besoin de sacrifier des parts de moi, en fait. Et ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé sur Internet, qui est très important. Et ça, c'est vraiment la beauté. Quand moi, j'ai rencontré les groupes Yahoo et quand j'ai rencontré les BBS, etc., c'était la capacité d'être ce qu'on était à l'intérieur de nous et qu'on ne pouvait pas exprimer dans la société. Cette acceptation, après la communauté et tout, mais le fait de se dire « Hey, je suis une femme, je vous le dis et je me comporte comme telle et vous ne savez pas qui je suis derrière l'écran, mais là, je suis ça, quoi. Et là, je peux tester comment je parle et là, je peux tester comment je m'interface avec vous, quoi. Non, mais c'est énorme. Je suis un furé, j'en sais rien. Non, mais j'ai eu ma période furé. Une période fenec, une période funéré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des trucs, hein. Faire pas en parler. Mais oui, il y a effectivement comme ça, et ça c'est fondamental, cette projection de notre psyché sur un espace, sur un canevas comme ça, pixelisé, qui nous permet de matérialiser des choses, qui deviennent de plus en plus réelles. Ah, c'est étonnant, quoi. Même quand c'est en 2D, même quand c'est du pixel art tout dégueulasse, ça marche quand même. Parce qu'il y a ce rapport, un peu comme le mot devient la pensée, et quand des fois qu'on a besoin de prendre des grandes décisions dans la vie, on ouvre un cahier et on se dit « Allez, demain, j'arrête de fumer, quoi. » Ben, ça, c'est un espèce d'engagement sur la page, quoi. C'est une espèce de cicatrice comme ça, quoi. Blam. Ça, c'est super important, je pense, et je pense que ça, pour le coup, Internet est toujours là pour ça. Il est toujours possible d'être qui on veut, pour l'instant, de ne pas avoir son nom d'origine et compagnie, et je pense que ça, c'est très très important. Ça va nous manquer terriblement si on n'a plus Internet. Comment on va faire pour être qui on est réellement et pour outrepasser toutes ces barrières que la société nous a mis en place autour de nous pour contrôler finalement le chaos de l'humain, le chaos de la vie, quoi. Hein ? Ouais. Ouais, pourquoi pas ? Après, je veux dire, je pense qu'à partir du moment où on a un demain sans Internet, je pense que de toute manière, culturellement, ça va partir en sucette très vite. je pense que les gens qui ont internalisé justement la cybernétique et qui ont plus ces trucs-là vont commencer à exprimer des choses d'une autre manière physiquement, quoi. Peut-être que justement la mode va changer, peut-être que autour de nous on va avoir des nouvelles formes d'organisation qui vont reproduire des nodes comme ça de réseau dans le réel. Ça peut être absolument passionnant à explorer comme idée en SF, quoi. Mais encore une fois, je vois pas comment. Alors, structurellement, on va pouvoir se passer de ça. Parce que là, de toute manière, je veux dire, si demain vous dites il n'y a plus d'email, vous avez 80% de l'économie mondiale qui s'écrase, quoi. Comment ils font les gens sans email, quoi? C'est pas possible, quoi. Ils vont devenir fous, quoi. Comment on va dire à Janine, à l'imprimante, de faire attention à faire les trucs en A4 et pas en A3? Je vais lui envoyer quoi? Je vais lui envoyer à la Brésil, un tube, là. C'est génial. Non, mais on trouvera probablement un moyen de le faire, quoi. Mais bon, ça va être tellement, tellement mécanique, tellement pénible, tellement lourd. Et encore une fois, ce sera un instrument de contrôle. Voilà. Ok. Il est quelle heure? Il est 41. Oui. Je vais finir. Et après, on peut continuer à papoter si vous voulez. Donc, pour moi, demain sur Internet, déjà, c'est, à mon avis, pas possible au niveau matériel et au niveau surtout psychique. Nous avons trop changé. Si on se prend une bombe atomique dans la gueule, qu'il y a trois quarts de l'humanité qui dégage, et que la nouvelle humanité qui jaillit des cendres est une humanité qui connaît rien Internet, qui a lu juste Émile Zola, et voilà, bon bah oui, probablement que pour eux, bah, ils vont créer une société, machin, là, bon, il n'y aura pas de problème. Si on continue avec la société qu'on a et qu'on la transpose en essayant de minimaliser au maximum les pertes humaines, on va se retrouver quand même avec un sacré problème si on n'a plus Internet, quoi. Bon. Mais. Pour moi, la solution, elle est très simple. C'est que Internet, ça doit être nous. Il faut qu'on anticipe absolument ça. Moi, je suis quelqu'un de hyper positif. On ne dirait pas comme ça. Mais moi, je ne fais pas de dystopie. Ça ne m'intéresse pas, la dystopie. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment est-ce que les choses peuvent bien tourner. J'en ai marre de cette SF qui dit tout dégueulasse. Je veux dire, j'ai vu le nouveau Blade Runner. Excusez-moi, monsieur. Je ne veux pas parler de ce film. J'ai détesté ce film. C'est pas l'opinion la plus populaire en ce moment. Mais moi, j'en ai marre des dystopies. J'en ai marre parce que ça devient. Pas de photo, please, pas de photo. Ah, cool, merci. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, j'en sais rien. Moi, comme c'est moi qui parle, je me dis que c'est moi le centre d'attention. Donc, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre des dystopies. Donc, comment est-ce qu'on peut construire, non pas une utopie, parce que j'en ai marre des utopies aussi, parce que les utopies, c'est un peu genre, on est super, on va tous vivre sur Internet, c'est trop bien, puis les gens d'Internet, en fait, ils veulent notre bien, puis après, on va élire nos présidents en cliquant sur un truc, et tout. Non, attendez, les gars, oh. Non, c'est pas ça non plus. Non, ce qui est important, c'est le rapport entre nous. Ce qui est important, c'est le rapport physique, intense, psychique, entre les êtres. Et peut-être que nous pouvons nous servir de ce que nous avons, de ce que nous apprenons en ce moment sur Internet pour stimuler ces liens-là, pour comprendre mieux ces liens-là, pour partager quelque chose. Je veux dire, regardez, on est tous là, bon, vous me regardez, je suis là, je suis le centre d'attention, je ne veux pas me prendre en photo, machin, compagnie. Mais on ne peut pas dire quand même que ce soit un truc foireux ce qu'on est en train de faire, quoi. Je veux dire, je suis quand même en train de m'adresser à vous, je prêche un peu et compagnie, mais je vous sens là quand même, quoi. Je vous regarde, vous êtes là, vous êtes physiquement là, vous n'êtes pas une présence débile, comme ça, non. Je sens que vous réfléchissez, je sens que des fois vous n'êtes pas d'accord, je sens que des fois c'est limite, que vous ne comprenez pas, mais je sens que vous êtes là. Si moi j'étais sur Internet en ce moment, en train de m'adresser sur Twitter et raconter des trucs que tout le monde est en train de liker ou que tout le monde est en train de. Ben, ça serait exactement la même chose. Sauf que les liens qui sont ici sont des vrais liens physiques, quoi. C'est, matériellement, ils sont transmis entre nous, quoi. Même si on ne les voit pas, même si ils sont complexes, ils sont là. Donc, moi, je vous dirais, pour finir, il est 45, je vais vous laisser parler un peu. Demain, sur Internet, fuck Internet, nous, on est là, quoi. Nous, on est là, nous, on survivra à Internet, et on se servira de ce qu'on a appris pour pouvoir propulser notre personnalité, pour pouvoir propulser nos liens, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, et pour pouvoir dire aux gens, ça, c'est bullshit. C'est ça, demain, sans Internet. Demain, sans Internet, c'est la révolution, quoi. C'est la révolution des humains. On peut toujours continuer à utiliser Internet, hein. C'est pas un problème. Mais il ne faut pas qu'on s'oublie, parce que là, on est en train de partir en vrille totale, quoi. C'est la cata, quoi. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. C'est pas demain en se disant, hein, non, on va leur faire confiance, quoi. Non, moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans les gens qui ont les moyens de production. C'est pas possible.
Mais demain, sur Internet, comment on fait pour se retrouver ici
attends, moi ce matin je suis arrivé, je savais même pas où c'est que je devais aller, je savais même pas ce que je devais faire, quoi. Donc alors, on me balance devant vous là, allez vas-y, pendant une heure, dis n'importe quoi. Ok, super, sans structure, sans rien, je me suis pas servi d'internet, je savais pas. Je me suis même pas servi d'internet pour venir. Si, j'ai imprimé mon ticket de métro, de train. C'est vrai, absolument. Mais j'aurais tout aussi bien pu me présenter à la gare avec mon passeport et dire bonjour, je voudrais mon ticket s'il vous plaît. Je me suis enregistré sur votre système, par téléphone, machin, j'en sais rien. Mais bon, après, les cas de figure. Mais je pense pas qu'internet soit responsable du fait qu'on est là aujourd'hui. Si ? Je me trompe ? Qui est d'accord ? Hein ? Ok, c'est un good point. Non mais...
C'est pas nécessaire que le monde entier soit au courant de chaque chose qui se passe partout, en fait. Enfin,
ah, ce n'est pas le cas.
Oui, de toute façon, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est vachement plus intéressant. Du coup, 200 personnes peuvent parler de quelque chose qu'elles ont vécu, qui leur a plu, vont en parler autour d'eux, et d'année en année, ça peut grossir. Voilà, doucement. Comme les plantes qui poussent tout doucement, ça n'a rien de mettre de l'engrais, des fois. Enfin...
Londres, à l'époque victorienne, il y avait ce qu'ils appelaient les clubs, il y avait des clubs de tout et n'importe quoi, où c'était des gens qui étaient et qui se retrouvaient comme ça une fois par semaine dans ces clubs privés où ils échangeaient autour d'une passion. Alors peut-être que c'est plus facile parce qu'on parle de Londres et que c'est une grosse ville que effectivement dans le fond de la campagne, dans un patelin de 14 habitants, mais a priori les gens ont toujours trouvé le moyen de se retrouver autour de passions, même avant quoi. Non, mais c'est un exemple. C'est que les gens qui sont passionnés de quelque chose, ils trouvent toujours le moyen de se retrouver. Il y a toujours le moyen d'échanger ta passion avec des gens, même avant Internet.
Je crois que ce qui ressort de cette discussion-là, c'est que, enfin, je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'Internet permette ça. Au contraire, je pense que c'est super cool, quoi. C'est juste la question qu'on peut se poser, c'est si jamais on n'avait plus ça, mais maintenant qu'on a appris qu'il y avait des gens qui aimaient faire des girafes en allumettes comme moi, comment est-ce que, après Internet, je vais pouvoir rentrer en contact avec ces gens-là? Et comment est-ce que je vais pouvoir changer activement la société pour que la société puisse comprendre ça, admettre ça? Mais vous avez dit un truc qui, moi, m'interpelle, c'est ça va plus vite. Ça, vous avez dit, c'est plus rapide. Mais depuis quand la rapidité, c'est quelque chose de bien, en fait, quoi? C'est juste une question que je pose, hein, j'en sais rien. Est-ce que vraiment être rapide... Ouais. Est-ce que vraiment être la super lenteur ou la rapidité, quoi? Est-ce que c'est vraiment des valeurs qu'on doit prendre en compte quand on est dans une question de lien profond entre les êtres humains? La rapidité, est-ce que moi j'ai super envie d'être pote avec toi, ben, maintenant, là, tout de suite, il faut qu'on soit pote. Non. Fou, quoi. Ça peut prendre 10 ans.
Non, mais c'est pas cette rapidité-là. C'est la rapidité de trouver plus facilement quelqu'un qui est très loin.
Non, mais... Non, mais je peux... Ouais.
S'abonner à un groupe de constructeurs d'allumettes, à part s'abonner et partager ce que t'aimes, s'il y a plus cette mise-là, ça n'a pas changé ta passion, ça n'a pas changé ce que tu fais au quotidien. C'est juste des amis qui sont à 200 000 km qui savent que tu fais des allumettes. Enfin,
Ouais, ça c'est absolument génial comme point de vue. Moi, je mis totalement pour un internet une heure par jour, quoi. C'est génial comme idée. C'est un truc de fou. C'est ouvert et c'est fermé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est possible ou c'est pas possible. On se dit oh, j'ai oublié ça. Ben, c'est pas grave. Je veux dire, moi, des fois, je me dis oh, mon Dieu, j'ai oublié de lui dire ça. Ben, c'est pas grave. Attends 24 heures. C'est pas le bout du monde si je suis pas obligé d'être là en me disant oh, mon Dieu, il faut tout de suite que je le dise, quoi. On revient à cette idée de rapidité aussi. On revient à cette idée de facilité. Est-ce que les choses rapides et les choses faciles, c'est réellement ça qui construit du lien, quoi? Moi, je sais pas. Je m'interroge. J'en arrive là et on se retrouve avec tout un tas de gens en ce moment qui prônent l'accélérationnisme en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi cette espèce de mouvement politique qui a viré néo-facho d'ailleurs, hein, complètement. Hein. Les mecs se disent non, en fait, ce qu'il faut, c'est aller de plus en plus vite et que ce soit de plus en plus facile pour pouvoir accélérer la chute du capitalisme, quoi. Non mais, faut vraiment être complètement planté dans sa tête pour penser un truc comme ça, quoi. Au contraire, je pense qu'il faut ralentir, quoi. Complètement. C'est la première chose qu'on apprend en méditation et c'est la première chose qu'on apprend quand on commence à faire des choses en profonde sur son être. C'est hey, tu respires et tu ralentis. Et c'est pas grave si tu peux pas envoyer un mail maintenant. C'est pas grave si ton message il arrive dans 2 jours. Bon, bah, sauf si c'est je suis en train de mourir, aide-moi, tends-moi la main. Effectivement, si t'as pas ton téléphone, t'attends 2 jours, t'es mort, quoi. Bon. Mais c'est un cas à part, quoi. On peut pas faire une généralité à partir de ça, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on va détruire la société juste parce qu'on a envie que quelqu'un nous tende la main pour nous sauver à un moment précis? Ah, c'est compliqué, comme. L'outil peut former l'utilisateur aussi, je veux dire. Le midi, la seule chose que je voulais dire par rapport à rebondir sur ce que tu as dit, c'est les bonnes distances entre les bonnes personnes. Merci à tous et à toutes.